pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. L'animateur de l'émission Chanteur masqué perd son travail. Un texte d'Émeric Épeau, paru le 20 mars 2024 sur le site Les As de l'info. Connais-tu l'émission Chanteur masqué à TVA? Peut-être que tu la regardes avec ta famille, puisque c'est une des émissions les plus populaires du Québec. Pourquoi je te parle de Chanteur masqué? C'est parce que TVA a pris la décision de renvoyer Guillaume Le Métivierge, qui l'animait depuis 3 ans. Je t'explique pourquoi. Une blague qui ne fait rire personne. Vendredi dernier, Guillaume Le Métivierge a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de se balader dans la forêt. Jusqu'ici, rien d'anormal. Dans sa vidéo, Guillaume parle du travail et il termine en disant « J'ai un gros boulot ». Pendant qu'il dit ces mots, il enlace un arbre qu'on appelle un boulot. C'est un jeu de mots. Le problème, c'est que sur cet arbre était gravé un mot très inapproprié, le mot en « N ». Le mot en « N », c'est quoi? On dit le mot en « N » pour ne pas avoir à prononcer un mot qui est très blessant pour les personnes noires. Ce mot est considéré comme une insulte raciste, car il était utilisé pour désigner les esclaves. Il fait donc référence à des personnes qui étaient maltraitées, vendues et forcées de travailler. Ce mot rappelle un passé très douloureux. C'est pourquoi il n'est pas acceptable de l'utiliser. Dans la vidéo de Guillaume Le Métivierge, il paraît évident qu'il a voulu montrer le mot en haine et en rire. Mais cette blague n'a pas fait rire les gens, au contraire. Que ce soit sur TikTok, X, dans les médias ou à la télé, la vidéo de l'animateur de Chanteur masqué a été dénoncée un peu partout. De nombreuses vedettes québécoises qui ont la peau noire, comme Pierre-Yves Laure, ont critiqué Guillaume Le Métivierge. Des excuses maladroites. À la suite de ces nombreuses réactions, Guillaume Le Métivierge a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il présente ses excuses. L'animateur jure sur la tête de sa mère, de son père et même de ses enfants ne pas avoir vu le mot gravé sur l'arbre. Des excuses jugées peu crédibles par beaucoup de gens. Guillaume Le Métivierge et sa conjointe Émilie Bégin sont même victimes de nombreux commentaires haineux depuis quelques jours. Lundi soir, le Journal de Montréal a révélé que TVA a pris la décision de ne pas reprendre Guillaume Le Métivierge comme animateur de la prochaine saison de Chanteur masqué. On ne sait pas encore qui le remplacera. Mais si tu écoutes cette émission, tu comprends maintenant pourquoi Guillaume ne sera pas de retour. Et toi? Penses-tu que c'est une bonne raison pour le renvoyer?
Est-ce que c'est beau, la vie, j'adore mon travail. Bonjour, Monsieur Krabs, quelles sont les nouvelles?
Eh bien, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiennent en 3 mots, t'es viré.
Monsieur, quoi? Viré?
Pour ou contre les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Un texte de Florence Champagne-Amel, paru le 23 mars 2024 sur le site Les As de l'info. Il y a quelques semaines, en Ontario, 5 enfants ont été amenés à l'hôpital après un accident de leur autobus scolaire. L'autobus s'est complètement renversé sur le côté. Heureusement, aucun enfant n'a subi de blessures graves, mais cette situation a inquiété un parent qui a réclamé des ceintures de sécurité à bord des autobus jaunes. Et ce n'est pas la première fois que l'on fait cette demande. Voyons ensemble les arguments pour et contre la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires. J'ai même demandé l'avis d'un chauffeur d'autobus pour m'aider. Les arguments pour. Plus sécuritaire dans certains cas. Lorsqu'un autobus se renverse sur le côté, ou encore fait des tonneaux dans un accident, la ceinture t'empêche de frapper le côté opposé d'où tu es assis ou encore d'être éjecté à l'extérieur de l'autobus. Oui, c'est déjà arrivé. Aïe! Moins de distractions pour le chauffeur. Selon Patrice Lacaille, chauffeur de bus depuis 16 ans, la ceinture permettrait un meilleur respect des règles de sécurité à bord. C'est plus reposant pour celui qui est au volant puisque tout le monde serait bien assis pendant le trajet. Fini les mauvaises postures, les pirouettes et le placotage avec ton voisin du banc en arrière. Des parents moins inquiets. Enfant attaché, parent rassuré. Tu le sais sans doute, mais ta sécurité préoccupe beaucoup tes parents. Avec la ceinture de sécurité, ils seraient plus en paix de te laisser partir le matin en autobus à l'école ou encore à une sortie scolaire. Après tout, la ceinture est obligatoire dans les autos, les camions, les autobus voyageurs et les avions. Alors, pourquoi elle ne le serait pas dans les autobus jaunes? Les arguments contre. Un autobus très sécuritaire. L'autobus scolaire est un véhicule conçu pour être l'un des plus sûrs sur la route, selon le Conseil canadien de la sécurité. Leur haut siège coussiné et rapproché te protège en cas de collision. Les freins de l'autobus sont aussi connus pour être très efficaces. Un prix très élevé. Les compagnies d'autobus ont peur des coûts très élevés des ceintures. 12 000 $. C'est ce que ça coûte d'installer des ceintures dans un seul autobus scolaire. En même temps, peut-on mettre un prix sur la sécurité? Comment faire respecter la consigne? Comment s'assurer que tous les enfants soient bien attachés? C'est une question que se pose Patrice. De sa place, avec les hauts bancs, il ne peut pas voir si tout le monde est bien attaché lorsqu'il est sur la route. Patrice m'a aussi appris qu'un autobus peut transporter jusqu'à 72 élèves. C'est environ 3 personnes par banc. Ça peut devenir complexe de s'attacher avec tout ce monde-là. Et toi? Es-tu pour ou contre le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires? Comment sauver les caribous? Un texte de Camille Lopez, paru le 25 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. Cette semaine, il y avait de la tension dans l'air entre les gouvernements du Québec et du Canada. Pourquoi? C'est en lien avec les caribous, une espèce en danger. On te résume la situation. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de caribous au Québec, et chaque année, on en compte moins. En 2014, à Manicouagan, sur la côte nord, on en avait observé 719. En 2022, 319. C'est 400 de moins. Pourquoi les caribous sont-ils en danger? Le caribou vit surtout dans les forêts de conifères et se nourrit du lichen. Ces arbres, ce sont sa maison. Or, la coupe d'arbres détruit son territoire. Des routes sont aussi construites dans les forêts pour permettre aux camions qui transportent le bois de circuler. Ces chemins simplifient les déplacements des prédateurs du caribou, l'ours et le loup. Ils peuvent donc chasser plus facilement. Tic-tac, un plan en retard. Dans cette histoire, il y a 2 ministres chargés de l'environnement. Il y a celui qui s'occupe de la province du Québec, Benoît Charrette, et celui qui s'occupe de tout le pays, Stephen Guilbeault. En 2022, le gouvernement du Québec devait présenter une stratégie pour sauver les caribous. Deux ans plus tard, en partie à cause des feux de forêt de l'été dernier, ce n'est toujours pas fait. Alors, cette semaine, Stephen Guilbeault a réclamé que Québec publie cette stratégie d'ici le mois de mai. En cas de refus, il pourrait lui-même imposer son plan de protection. Benoît Charrette a répondu qu'il devrait y arriver. Il veut toutefois s'assurer de protéger le caribou et les emplois des personnes qui travaillent dans le bois. SOS Caribou. Pour protéger le caribou, il faut protéger son territoire, donc limiter la coupe d'arbres. Stephen Guilbeault propose de protéger 35 000 km² de forêt, ce qui équivaut environ à la superficie de la Belgique. Il existe déjà des zones protégées et d'autres mesures sont prises pour sauver les caribous. Par exemple, en Gaspésie, il y a présentement une opération de capture des femelles. On espère ainsi protéger les bébés caribous, les fans, des prédateurs dans les premiers mois de leur vie avant de les remettre en liberté. Et toi, connais-tu un autre animal qui est en danger? Grosse tempête égale dodo à l'école. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 23 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. Jeudi, une tempête de neige beaucoup plus grosse que prévu a surpris trois écoles de la région de Chaudière-Appalaches au Québec. Résultat, des dizaines d'élèves ont dormi à l'école. Stéphanie l'Italien, enseignante en sixième année à l'école Saint-Joseph à Saint-Pamphile, m'a raconté l'histoire de cette folle journée et de cette nuit unique. Madame Stéphanie, comment a débuté la journée? Il neigeait et il ventait déjà le matin. Mais on avait déjà vu pire. Ça s'est intensifié dans la journée. Au retour de la récréation de l'après-midi, on a appris que les autobus scolaires arriveraient une heure plus tard qu'à l'habitude. Ensuite, ça a été deux heures plus tard. Tous les élèves étaient pris à l'école? Non. On était déjà en contact avec les parents et beaucoup ont pu venir chercher leurs enfants. Pour faire patienter ceux qui restaient, on est allé chercher des collations à l'épicerie. À 17h30, on ne savait toujours pas quand les autobus pourraient prendre la route. Il y avait encore 20 à 30 élèves à l'école. Qu'avez-vous fait pour le souper? Un restaurant du coin nous a apporté du spaghetti. On a pu manger. Puis, on a appris que même les déneigeuses arrêtaient le travail parce que les conditions étaient trop dangereuses. C'est à ce moment-là que vous avez su que des élèves allaient dormir à l'école? Oui. Sur les 200 élèves de l'école, une dizaine a dû rester pour la nuit, dont quatre de la maternelle. Il y avait 5-6 enseignants avec eux. On a fait deux groupes, un de filles et un de garçons qu'on a installés dans deux classes. On s'est servi des gros matelas du gymnase. La maman d'une enseignante est venue nous porter des couvertures. Tout le monde s'est entraidé. On a une équipe de feu qui a su faire la différence. Vous n'êtes pas la seule école à avoir dû garder des élèves pour la nuit, non? Il y a une autre école primaire de la région, l'école des Hauts-Sommets, où une quinzaine d'élèves sont restés à coucher, et une école secondaire, l'école secondaire La Rencontre, où ils ont été près de 50 à dormir à l'école. Comment s'est passée la soirée? Les amis de maternelle ont choisi un toutou et se sont fait de petites tentes avec les couvertures. Les grands ont regardé un film et mangé du pop-corn. Certains ont pu parler à leurs parents avant d'aller se coucher. Tout s'est passé dans le calme. Les enfants se sont vite adaptés. C'est incroyable. En soirée, je suis retourné à la maison. J'habite à côté de l'école. Les enfants ont pu retourner à la maison le lendemain? Oui, au matin. Les parents ont pu venir chercher leurs enfants. Vers 9 heures, tout le monde avait quitté. L'école est restée fermée pour la journée. Quelle histoire! Oui, vraiment. Et j'ai su que des enfants étaient fâchés que leurs parents soient venus les chercher jeudi. Ils auraient aimé vivre ça, eux aussi, une nuit à l'école. Toi, aimerais-tu dormir à l'école? Pour ou contre interdire TikTok? Un texte d'Émeric Epeau, paru le 18 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. Mercredi dernier, des politiciens américains ont adopté une loi qui pourrait mener à l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Pourquoi? En fait, TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Et les États-Unis soupçonnent la Chine d'utiliser cette application pour jouer les espions. Il me semble que c'est un bon sujet pour un pour ou contre, non? Les arguments pour bannir TikTok. Doute d'espionnage. Le premier argument des politiciens américains concerne la sécurité du pays. Les États-Unis soupçonnent la Chine d'utiliser TikTok pour espionner les plus de 150 millions d'utilisateurs américains. Ces politiciens craignent aussi l'influence de TikTok dans la propagation de fausses nouvelles et de propagande. Réduire la dépendance à TikTok. La popularité de cette application est immense. Trop. Selon une enquête réalisée par Surfshark, 74% des Américains pensent que TikTok crée une dépendance. Les utilisateurs passent en moyenne près de 2 heures par jour sur l'application, sur un autre réseau social comme Instagram. Le temps moyen par jour est de seulement 51 minutes. Seul avec notre écho. À cause de son algorithme très puissant qui détermine ce qu'on voit dans la section « Pour toi », TikTok a tendance à toujours nous montrer le même genre de contenu. On peut alors se retrouver pris dans ce qu'on appelle une chambre d'écho. Ça veut dire qu'on est comme dans une bulle qui reflète nos orientations à l'infini. On est peu confronté à des idées différentes. Les arguments contre bannir TikTok. Et la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est le droit qui permet à chacun de s'exprimer et de partager ses opinions librement. Enlever TikTok, c'est priver les gens d'un endroit où ils peuvent se faire entendre, partager leurs passions, leurs opinions et créer. La liberté d'expression, c'est un droit très important. Ça favoriserait les autres réseaux sociaux. Dans une entrevue accordée à CNBC, l'ancien président américain Donald Trump a dit être contre l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Pourquoi? Selon lui, interdire TikTok donnerait trop d'importance au groupe Meta, propriétaire d'Instagram et de Facebook, que l'ancien président qualifie d'ennemi du peuple. TikTok a des côtés positifs. Il y a eu des manifestations pro-TikTok aux États-Unis. Ces manifestants estiment que TikTok a changé leur vie de façon bénéfique. Certains ont pu exprimer leur passion à travers des contenus, rejoindre une communauté et ainsi se sentir moins seuls. Pour ces personnes, TikTok est un aspect positif de leur quotidien. Pour ou contre les croisières? Un texte de Caroline Bouffard, publié le 4 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. Le soleil, la plage, l'océan, les beaux paysages. On en rêve pendant les mois les plus froids. Et Il y a un type de voyage qui réunit tout cela. Les croisières. C'est aussi une forme de tourisme qui divise. On aime ou on déteste. Quoi? Un sujet qui divise, c'est parfait pour un pour ou contre. Les arguments pour. Visiter plusieurs pays en peu de temps. C'est un des plaisirs des croisières. Le bateau se déplace pendant la nuit. On se couche et pouf! Le matin, on se réveille dans un autre pays. Dans une croisière d'une semaine dans les Caraïbes, par exemple, on peut facilement visiter 4 pays. Simple et pratique, on sait où on dort, où on mange. On monte à bord, on s'installe dans la cabine comme on le fait dans une chambre d'hôtel. Plus besoin d'y penser le reste du séjour. Même chose pour les repas qui sont compris dans le voyage. On retrouve plusieurs restaurants et salles à manger à bord. Il y en a pour tous les goûts. Une foule d'activités. Impossible de s'ennuyer. Le bateau est une véritable petite ville avec ses piscines, ses parcs, ses boutiques. On présente des spectacles tous les soirs. Des soirées thématiques sont aussi organisées et à chaque heure du jour, il se passe quelque chose à bord. En fait, c'est souvent impossible de tout faire. Les arguments contre. Les croisières sont très, très polluantes. Ces mini-villes flottantes sont malheureusement des petites machines à pollution. Une étude a évalué qu'un bateau de croisière de taille moyenne générait autant de pollution que 12 000 voitures. On évalue qu'une croisière est plus polluante qu'un voyage en avion avec un séjour à l'hôtel. En plus de la pollution causée par le carburant, les bateaux déversent parfois directement dans l'océan ce qu'on appelle des eaux grises. C'est l'eau, pleine de déchets, de graisse et de savon, évacuée par les douches, les lavabos et les lave-vaisselles. Invasion de touristes. Ce n'est pas évident pour beaucoup de ports et leurs habitants de voir débarquer 3 000, 4 000 ou 5 000 touristes d'un coup. De nombreuses villes visitées par les bateaux de croisière n'ont pas été construites pour accueillir tous ces gens. Venise en Italie, Santorin en Grèce et Amsterdam aux Pays-Bas ont même décidé de ne plus permettre aux gros bateaux de croisière d'accoster chez elles. C'est trop. Adieu, liberté. Le bateau a beau être grand. Reste que c'est comme si on était toujours pris avec les mêmes gens dans cet immense hôtel flottant. On n'a pas non plus son mot à dire sur l'itinéraire. Même si on a un coup de cœur pour un petit village, impossible d'y rester un jour de plus que prévu. Sinon, le bateau partira sans nous. Difficile alors de véritablement découvrir les destinations ou de faire de belles rencontres. Et toi, es-tu pour ou contre les croisières? Moins de crevettes dans nos assiettes. Un texte de Charlotte Préfontaine, paru le 21 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. Le programme Fourchette Bleue a retiré la crevette nordique, aussi connue sous le nom de crevette de Matane, de son guide d'alimentation responsable. Conséquence, les pêcheurs de crevettes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve craignent pour leur travail. Je t'explique tout ce qui se passe dans nos fonds marins. Fourchette Bleue, c'est quoi? Il s'agit ici d'un programme qui fait la promotion des espèces marines du Saint-Laurent. Fourchette Bleue encourage les Québécois à manger des poissons et des fruits de mer locaux et qui sont pêchés de manière éco-responsable. Le programme a dévoilé son nouvel éco-guide qui rassemble les espèces marines qui peuvent faire partie d'une alimentation éco-responsable. Surprise! La crevette de Matane a été retirée. Ce que ça veut dire, c'est que Fourchette Bleue ne considère plus que c'est un produit éco-responsable. Mais pourquoi retirer les crevettes nordiques? Le nom le dit, crevettes nordiques, ce qui signifie qu'elles ont besoin d'un climat froid pour survivre. Or, le réchauffement climatique engendre le réchauffement des eaux. Depuis quelques années, les crevettes ont donc plus de difficultés à se reproduire et leur nombre diminue. Comme il y a de moins en moins de crevettes dans le Saint-Laurent, Fourchette Bleue considère qu'il n'est plus éco-responsable de les consommer. La température des eaux du Saint-Laurent aurait augmenté de 1,8 degrés Celsius dans les 13 dernières années. C'est, selon des scientifiques de Pêche et Océans Canada, le ministère responsable de la protection des eaux au sein du gouvernement. Il s'agit d'un changement important pour les espèces qui sont habituées aux eaux très froides. Il n'y a pas seulement le réchauffement des eaux qui contribue à la diminution du nombre de crevettes de matane. Le principal prédateur des crevettes n'est pas les pêcheurs, mais bien un petit poisson rouge qui se nomme le sébaste. Ces poissons consomment bien plus de crevettes que ce qui est pêché par année. Les sébastes mangeraient 214 000 tonnes de crevettes par an. Des pêcheurs découragés. Le gouvernement de Justin Trudeau vient tout juste de baisser le nombre de crevettes nordiques que les crevettiers, les pêcheurs de crevettes, pourront pêcher pour l'année 2024. Son but et de protéger les crevettes qui restent dans le Saint-Laurent et d'assurer leur reproduction. Les crevettiers du Canada devront alors se contenter de 3060 tonnes de crevettes nordiques au total. Même si cela peut paraître beaucoup, il s'agit d'environ 5 fois moins de crevettes que l'année dernière. Les crevettiers sont très découragés par cette nouvelle. Ils en veulent au gouvernement qui n'aurait pas agi pour protéger les stocks de crevettes plus tôt. Les pêcheurs avaient remarqué cette diminution dans le Saint-Laurent et avaient averti Pêche et Océans Canada. Ils n'ont toutefois pas eu l'impression d'être écoutés. Depuis l'annonce de la nouvelle limite fixée par le gouvernement, les crevettiers ont peur de ne plus être capables de vivre de la pêche. Et toi, manges-tu souvent des crevettes à la maison? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.